Les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Malgré tout, on va un peu repartir à cette époque, Frédéric, puisqu'on va parler à nouveau de cette correspondance, merveilleuse correspondance amoureuse entre Maria Cazares et Albert Camus, qui s'est donc prolongée de 1944 à 1959. Nous sommes en compagnie de Gilles Philippe, qui a présidé à la publication de la Pléiade Albert Camus, notamment également de Geneviève Brisac, ma complice, et puis de Catherine Camus, qui est la fille, mais qui a également participer à cette publication de la correspondance de son père. On va écouter d'ailleurs Albert Camus dans Le passage de l'homme révolté, un passage où il évoque le poison de la possession dans l'amour.
Le goût de la possession n'est qu'une autre forme du désir de durée. C'est lui qui fait le délire impuissant de l'amour. Aucun être, même le plus aimé et qui nous le rende le mieux, n'est jamais en notre possession. Sur la terre cruelle où les amants meurent parfois séparés, naissent toujours divisés, la possession totale d'un être, la communion absolue dans le temps entier de la vie est une impossible exigence. Le goût de la possession est à ce point insatiable qu'il peut survivre à l'amour même. Aimer alors, c'est stériliser l'aimé. La honteuse souffrance de l'amant, désormais solitaire, n'est point tant de ne plus être aimé que de savoir que l'autre peut et doit aimer encore. À la limite, tout homme dévoré par le désir éperdu de durer et de posséder souhaite aux êtres qu'il a aimés la stérilité ou la mort.
La voix d'Albert Camus. Catherine Camus, parmi les femmes qui ont compté dans la vie de votre père, il y a vous, il y a Maria Cazares, il y a votre mère, Francine Faure, et puis il y avait également sa mère. Sa mère s'appelait Catherine, vous l'avez connue. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle femme c'était? Il a beaucoup écrit sur elle, il a beaucoup écrit sur l'Algérie.
Et c'est difficile toujours d'entendre la voix de papa, excusez-moi.
Je vous en prie.
Mais ma grand-mère, paternelle, c'était la douceur même. Elle était innocente au sens propre du terme, c'est-à-dire qu'elle était incapable de nuire, et je crois même incapable de concevoir la méchanceté. Alors, une des choses sur lesquelles je me suis beaucoup battue depuis que je gère l'œuvre de papa, ça fait quand même 39 ans de boutique, hein, et c'était, en France, quelqu'un qui ne sait ni lire ni écrire. Uh-huh. Et surtout dans les milieux cultivés, c'est un imbécile, quoi. Enfin, c'est pas un imbécile, c'est un demeuré. Mais ma grand-mère, elle était très intelligente. Elle était... Alors, bien sûr qu'elle parlait beaucoup avec les mains parce qu'elle avait pas beaucoup de mots, qu'elle savait pas lire ni écrire, que son monde était très restreint, puisque si vous n'avez pas la lecture, mais c'était quelqu'un tellement sensible. Le plus beau compliment qu'on m'ait fait, c'est passé par mon frère qui m'a dit, tu sais, Jacques a dit que tu ressemblais à Mémé. Et là, moi qui suis plutôt pas très contente de moi, généralement, là, quand il m'a dit ça, et chaque fois que je ne trouve que je suis bonne à jeter à la poubelle, là, je pense que si je ressemble un peu à ma grand-mère, ben ça vaut la peine.
Votre grand-mère, elle est restée en Algérie. Elle a survécu quelques mois à Albert Camus, qui est mort, je le rappelle, le 4 janvier 1960. 60. Vous êtes allé lui rendre visite en Algérie? C'est elle qui est
venue.
On
est passé. C'est-à-dire quand on allait en Algérie, d'abord on passait par Alger pour voir Mémé d'Alger. Et après, on allait chez Mémé d'Oran.
Autrement dit, pour la mère de votre
papa,
mère,
ah, pour la mère
Faure,
de ma mère,
qui
voilà.
Était également une pied-noire.
Ben oui, nous on était du côté de ma mère, c'était des. Ils étaient. Mon arrière-arrière-grand-père était issu d'une tribu juive berbère nomade. Et il a été donné un soldat parce qu'ils n'avaient pas de quoi le nourrir. Il a été confié à un soldat parce que ses parents ne pouvaient pas le nourrir. Donc, on était, nous, du côté de ma mère, on était en Algérie. Ma tante, qui était un peu parano, disait toujours qu'on descendait de la Caïna. Mais enfin bon, faut pas... Non, j'ai été voir ma grand-mère, mais j'ai pas de souvenir de ça, parce que c'était tellement violent, la mort de mon père, que j'ai des grands blancs. Mais elle voulait pas venir en France. Et quand mon père lui demandait de... Elle lui disait, mais... Non, c'est bien, la France. Mais il n'y a pas d'arabe.
On a fait lire ces lettres, Catherine, par ma complice et romancière Geneviève Brisac. Parlez-nous de ces lettres, Geneviève.
Non, mais je suis très émue, très touchée par ce que... Enfin, en fait, j'écoute très bien Catherine Camus, mais je vais quand même répondre à votre question, Guillaume. Ce qui m'a vraiment frappée, c'est la modernité. Je pense que vous disiez tout à l'heure, Catherine Camus, que c'est votre intuition qui vous avait guidée dans le souhait, le fait de publier ce recueil. Je pense que c'est une intuition très, comme souvent les intuitions, très forte, très juste. C'est une correspondance qui arrive tout à fait au bon moment, parce que on a envie de ce genre de relation, on a envie de cette façon de parler d'amour librement, fortement, avec beaucoup de noblesse et de bravoure de part et d'autre. Alors, je vais expliquer un peu ce que j'entends par la modernité. Hein. Il y a la modernité de Camus. Bon, ça, tout le monde l'aperçoit très bien. La modernité aujourd'hui d'Albert Camus, c'est-à-dire le fait que ça, ce que vous évoquiez tout à l'heure, le discours de Stockholm, c'est-à-dire cette façon de dire on a cru qu'on changerait le monde, on ne le changera pas, on peut empêcher qu'il se défasse. Hein, c'est ça. Et puis le rapport à l'individu, aux valeurs individuelles, à la noblesse. Oui, personnelle.
Empêcher que le monde se défasse, c'est une citation d'Albert Camus dans ce discours.
Oui, exactement. Et puis cette, donc ça, et puis aussi ce rapport à sa mère, à l'Algérie, etc., qui nous, et à cette mère dont vous parliez, qui ne sait pas lire, pas écrire, ça aussi, ça nous parle beaucoup. Qu'est-ce que c'est l'accès à la culture? Qu'est-ce que c'est l'accès à une autre façon de vivre entre soi? Bon, ça, c'est la modernité de Camus, et je crois que tout le monde l'aperçoit et la comprend. Et puis, il y a la modernité de Maria Cazares, qu'on connaît moins, qui est quand même, je crois, d'une façon, l'héroïne principale de ce livre, enfin de cette correspondance, parce qu'on découvre une femme. Elle est plus jeune que lui, hein, vous l'avez dit, mais elle est incroyablement forte, énergique, d'une noblesse de sentiments tout le temps. Démente, et elle est aussi d'une drôlerie incroyablement moderne dans une correspondance. C'est-à-dire qu'elle est très vive et crue dans l'expression de son attente, de son désir, etc., etc. Enfin, vraiment très simple, directe et vivante et naturelle, comme on serait aujourd'hui naturel, plus que dans les années 50 où ça se passe. Donc elle est de ce point de vue-là très précurseur, je trouve, précurseuse. Et puis, elle est aussi très drôle, elle est aussi très littéraire. Et ça, moi, je ne le savais pas du tout. Bon, il arrive que les comédiennes, les grandes actrices soient des personnes, des créatrices littéraires. Elle parle, il y a des pages où elle raconte ses lectures beaucoup plus que lui d'ailleurs. Elle raconte beaucoup plus ce qu'elle fait que lui. Et donc elle raconte qu'elle découvre Rimbaud, elle aime pas tellement. Alors elle a des pages sur pourquoi elle aime pas Rimbaud qui m'ont fait absolument jubiler. D'une liberté. Et alors, la page suivante, elle parle de ça, de la fortune de la vertu. Elle dit, là, qu'est-ce que je m'ennuie? Et je peux toujours partager ce point de vue, je trouve ça formidable. Et donc, elle a une façon de lire qui est magnifique.
Alors, je n'aimerais pas briser cet unanimisme, mais malgré tout, Catherine, bouchez-vous les oreilles. Il y a dans cette relation avec cette femme une position un peu confortable pour Albert Camus. Et d'ailleurs, il y a cet extrait-là dans La Chute. Alors, La Chute, c'est un monologue. C'est le monologue d'un avocat, Jean-Baptiste Clamence. Et Jean-Baptiste Clamence, dont on se demande, mais je vais le demander à Gilles Philippe, s'il est ou non le double d'Albert Camus, il dit la chose suivante. « Je maintenais toutes mes affections autour de moi pour m'en servir quand je le voulais. Je ne pouvais donc vivre de mon aveu même qu'à la condition que sur toute la terre, tous les êtres, ou le plus grand nombre possible, fussent tournés vers moi éternellement vacants, privés de vie indépendante. » Gilles Philippe.
Alors, c'est un texte d'une telle difficulté, un texte qui est fortement ironique. On dispose maintenant des enregistrements de La Chute par Camus et on voit qu'il a surjoué l'ironie du texte, c'est-à-dire qu'il l'a mis à distance et Pour quelle raison? Tout simplement parce que dès la parution du texte, et on le voit en filigrane dans la correspondance, il fait allusion à ça, il dit c'est comme si j'écrivais en chinois, puisque les gens qui ont lu La Chute me disent immédiatement je vais le relire parce que j'ai pas très bien compris. Et c'est une question qu'on peut encore se poser d'ailleurs, et tout simplement parce que c'est extrêmement ambigu. Oui, il y a du Camus dans La Chute et dans cette position, dans ce qu'il fait dire à son personnage Clémence.
Et puis donc, il y a cette position ironique, en quelque sorte héliocentrique avec tous ces individus qui doivent tourner autour de lui, notamment les femmes.
Oui, absolument. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de Camus dans ce que raconte Clémence. Hein. Déjà la littération des deux noms, évidemment, nous met sur cette piste. Et en même temps, il y a quand même un jugement qui est porté par une tonalité, par d'autres indices qui font que on ne peut pas répondre par oui ou par non à l'idée à la question de savoir si ceci représente le point de vue de Camus ou non. Ce serait vraiment piétiner la complexité du texte.
Geneviève Brisac, le fait que finalement la situation entre Camus et Cazares ne soit pas complètement inconfortable, va-t-on dire, pour Camus. On peut penser également aux questions qu'on s'était posées au moment de la parution, il y a à peu près un an, de la correspondance entre François Mitterrand et Anne Pinjot.
C'est-à-dire que c'est quelque chose de pas follement original, on va dire. Enfin, ça, c'est un côté traditionnel, hein, le mari qui reste chez sa femme, enfin qui reste avec sa femme pour différentes raisons morales, sociales, etc., etc. Et la femme qui s'en accommode, c'est assez banal. Hein, enfin, ça l'était, en tout cas, aujourd'hui. Enfin, en tout cas, ça l'était. Donc ça, c'est traditionnel. Par ailleurs, je trouve que ce qui ressort de la correspondance, au-delà de cette situation posée, c'est que c'est pas du l'inconfort est pas dans ce sens-là. C'est-à-dire que c'est dans tout ce qu'on lit, c'est elle qui l'aide, le soutient, lui transmet de l'énergie, de l'énergie de vivre, du courage, etc., etc. Et c'est lui se plaint pas mal. Hein. Enfin, ça peut être aussi une position masculine qu'on a déjà
observée. Il se plaint, il raconte ses ennuis de santé réels d'ailleurs, toute évidence.
Voilà, elle a juste un petit peu mal au ventre, mais rien du tout, un petit rhume. Et lui, il est fragile, il est malheureux, il ne va pas s'en sortir, etc., etc. Et donc, il y a une masculinité aussi de cet ordre-là qui ressort beaucoup au texte.
Catherine Camus.
Je voulais juste dire que dans Résidente privilégiée, Maria a écrit « Il a fallu que j'accepte de vivre à 75%. » Et ça, je trouve ça... Et c'est ce qu'elle a fait avec une générosité incroyable. Ceci dit, sur La Chute, c'est vrai que mon père disait qu'il aimerait beaucoup que les femmes qu'il a aimées rentrent au couvent. Mais quel homme n'est pas comme ça? Il était juste assez franc, hein. Parce que je pense que...
Mais parce qu'il était infidèle et jaloux.
Ah oui, jaloux, oui. D'ailleurs, elle le titille, Maria, dans les lettres.
Elle lui dit un tel m'a courtisé, mais je lui ai dit non. Elle obtient son approbation.
Non, mais c'est pas ça. C'est pas un tel m'a courtisé. C'est beaucoup plus vicieux que ça. Enfin, vicieux, je veux dire.
Ça existe aussi. Hein.
Elle lui dit que tel acteur, bon, il est très beau et tout ça. Mais c'est toujours un peu... C'est pas le type qui va lui faire la cour, parce que ça... Ça, ils sont tranquilles là-dessus. C'est juste un petit émoi qui pourrait passer. Et ça, ils supportent pas. Mais oui, j'étais jaloux.
Vous l'avez rencontré, Maria Cazares?
Oui. Mais après la mort de maman. Elle jouait, j'habitais
après
à Nice.
1979.
Oui, au 80, quoi. Parce que maman, elle est morte le 24 décembre. Donc, elle jouait à Nice. Et j'ai laissé un mot au théâtre en lui disant que j'aimerais beaucoup la rencontrer. Mais que je comprenais très bien qu'elle n'ait pas envie de me voir, de me rencontrer. Parce que on a quand même été un peu... voilà. Et elle m'a téléphoné tout de suite. Elle m'a donné rendez-vous à son hôtel. Je suis arrivée à 2h. Et on s'est couchés sur le lit toutes les deux. On a bouffé 5 tablettes de chocolat, je crois. Jusqu'à 6h du soir. Comme si on s'était toujours connus. Et puis tout à coup, j'ai dit, mais il faut que je rentre. Alors elle me dit, mais pourquoi? Et je lui dis, parce que le soleil se couche. Là, elle a éclaté de rire, elle m'a dit « Les chiens font pas des chats. » Et après, je l'ai toujours revue. C'était une femme tellement vivante. Elle était la vie même.
On écoute la voix d'Albert Camus lors de ce discours. Discours de Suède pour la réception du prix Nobel.
La vérité est mystérieuse, fuyante, toujours à conquérir. La liberté est dangereuse, dure à vivre autant qu'exaltante. Nous devons marcher vers ces deux buts, péniblement, mais résolument, certains d'avance de nos défaillances sur un si long chemin. Quel écrivain, dès lors, oserait, dans la bonne conscience, se faire prêcheur de vertu? Quant à moi, il me faut dire que je ne suis rien de tout cela. Je n'ai jamais pu renoncer à la lumière, au bonheur d'être, à la vie libre où j'ai grandi. Mais bien que cette nostalgie explique beaucoup de mes erreurs et de mes fautes, elle m'a aidé sans doute à mieux comprendre mon métier. Elle m'aide encore à me tenir aveuglément auprès de tous ces hommes silencieux qui ne supportent dans le monde la vie qui leur est faite que par le souvenir et le retour de bref et libre bonheur.
Au fond, il y a quelque chose de mystérieux dans l'amour que nous portons, que la France porte à Albert Camus, pas seulement la France d'ailleurs, alors qu'il n'a cessé dans son œuvre, Gilles Philippe, de flétrir la morale, la moraline, c'est-à-dire cette manière un peu pharisienne, un peu hypocrite d'appeler à la vertu alors qu'on est soi-même peu vertueux. On retrouve ce thème dans le discours de Suède, on le retrouve finalement dans toute son œuvre, dans La Chute aussi, c'est ça, la position de Clamence. Comment expliquez-vous finalement qu'il soit à ce point aimé aujourd'hui?
Alors c'est une question bien complexe pour une heure si matinale. Je ne sais pas très bien, il y a une immédiateté des textes de Camus, hein, donc il y a ce qu'il appelait, son idéal esthétique, il le définissait par l'équilibre de l'évidence et du lyrisme. Cette évidence, ça veut dire, d'ailleurs c'est une sorte d'antinomie assez étrange, à savoir est-ce que l'évidence oppose au lyrisme, etc. Donc dans l'extrait qu'on vient d'entendre, d'ailleurs, il y a cette évidence, savoir qu'il y a quelque chose qui est partagé, hein, ou partageable, de l'expérience commune. Et c'est le tout début de l'extrait, avec ces phrases qui sont aisément aphorisables, détachables, elles tiennent toutes seules. Et puis à la fin, lentement, on va glisser vers du lyrisme, on va voir apparaître un nouveau lexique, un retour sur soi. Et c'est peut-être finalement ce qui nous touche, à savoir que nous ne sommes pas exclus de l'expérience intime ou personnelle. Après, chaque œuvre a son destin, hein. Donc nous aimons Camus, mais nous n'aimons pas tout Camus. Il y a des textes que nous aimons beaucoup, que nous relisons, le « nous » étant une sorte de « nous » national, qui parle par ma bouche. Et puis il y a des textes que nous ne
lisons plus. Quel est le Camus moins aimé ou plus méconnu, selon vous ?
Je ne suis pas sûr que le théâtre vieillit souvent assez vite. Je ne suis pas sûr que le Camus théâtral, à part Les Justes, et peut-être Caligula, ait si bien survécu que nous l'aimions autant. Quand on voit la place que l'adaptation des Possédés a eue pour lui dans son imaginaire, est-ce que c'est par là que nous allons entrer dans l'œuvre ? Et même dans les récits, je ne suis pas sûr que nous lisions autant, que nous soyons autant touchés par La Peste que nous pouvons l'être par La Chute. La complexité de moi j'adore La Peste, hein, c'est pas du tout la question. La complexité de La Chute, la résistance du texte à l'interprétation, voire à la compréhension, va nous toucher, nous retenir incomparablement plus que l'évidence peut-être, l'immédiateté de La Peste.
Geneviève Brisac.
Oui, mais moi je me demande si c'est pas pour aujourd'hui, pour les jeunes gens, les jeunes filles d'aujourd'hui, qu'il y a une pertinence de Camus, des Justes en particulier, de personnages de Dora d'ailleurs, dont les deux parlent beaucoup de manière absolument magnifique dans le livre. C'est un personnage tout à fait pour aujourd'hui. L'interrogation sur les attentats, le terrorisme, etc., c'est quand même bien Camus, hein, c'est pas quelqu'un d'autre. Et ça, je trouve que c'est vraiment très intéressant aussi. Et moi, je trouve qu'il y a une pertinence de son, c'est-à-dire le succès qu'a eu le livre de Kamel Daoud autour de l'étranger est aussi typique de ça. Moi, je crois qu'il y a un retour de la façon de penser et d'écrire de Camus. Et j'y ajouterai quelque chose de plus superficiel à ma manière. C'est que, par exemple, quand il va à Stockholm, il écrit à Maria Cazares, il lui dit, j'ai bien fait mon Mr. Deeds. Je trouve ça très très drôle, c'est-à-dire qu'il se voit en Gary Cooper quand même, hein. Et enfin, du moins, ironiquement évidemment, mais de même que elle lui dit ah, depuis que t'as un peu grossi, parce qu'il parle beaucoup du fait qu'il a maigri, qu'il a grossi, qu'il faudrait que
oui, c'est pas trop, un thème
mais
important.
Un peu, c'est vachement oui, parce que lui il faut qu'il grossisse, mais elle veut pas qu'il grossisse trop, bon tout ça. Et alors il lui dit, là, sur, je viens de te voir une photo de toi, c'est vraiment Humphrey Bogart. Donc il y a ce thème du trench, ce thème, les imperméables qui jouent un très grand rôle aussi dans la correspondance, très contemporain, l'imperméable. Et, donc, le, et puis Humphrey Bogart, Gary Cooper, ça c'est d'aujourd'hui quand même, hein,
Gilles, paradoxalement. Est-ce la même question, je vais vous dire, de savoir s'il est pertinent pour nous aujourd'hui, si nous le trouvons comme moderne, s'il répond à nos questions, et la question de savoir si nous l'aimons, qui est une toute autre relation que nous avons avec les écrivains du passé. Il y a un tas d'écrivains du passé que nous aimons et qui ne répondent pas à nos questions immédiatement modernes. On peut aimer Racine, on peut aimer Rimbaud, sans penser que Rimbaud ou Racine, nous, d'une part, soient modernes, d'autre part, répondent à nos questions de la modernité, que ce soit par là que nous entrions dans leur œuvre.
Et vous en pensez quoi, Catherine Camus, puisque et vous assumez et l'héritage de votre père, c'est vous qui faites vivre son œuvre, qui décidez donc, qui avez décidé de publier cette publication, ce livre posthume qui n'a pas eu le temps de terminer. Et quand on vous parle de Camus, qu'est-ce que vous vous dites ? C'est mon père, je reconnais cet homme-là.
Là, c'est une position un peu schizophrénique, mais jusqu'à présent, on ne m'a pas interné, donc je suis très fière de moi. Mais il y a Camus, puis il y a papa. Et mais papa, c'est Camus, hein, je veux dire. Bon. Maintenant, je pense que... Parce que c'est quand même étonnant. Je reçois des lettres du monde entier. Aux Indes, il est adoré. Au Japon, il est adoré. En Chine, il est beaucoup lu. Toutes les civilisations. Et ça me posait question au départ. Je me disais, mais quand même. Puis j'ai un peu grandi. Vieilli. Et je pense que d'abord, il est en même temps, justement, ce que vous disiez, Gilles, il est en même temps aimé pour ses livres, enfin, d'un point de vue intellectuel, je vais dire, il est aimé comme frère, fraternellement, parce que cet homme, il est fraternel, il est très cohérent dans sa vie et dans ses livres. Moi, quand j'ai lu ses livres, il était mort, j'ai retrouvé mon père. Il est parfaitement cohérent. Et ce que je pense, c'est qu'il est resté toujours à hauteur d'homme. Enfin, il était solidaire avec les autres humains. Et c'est ça qui fait qu'il touche encore. Parce que peut-être qu'on a des technologies sensationnelles pour défaire la planète, d'ailleurs. Mais tout ça, c'est... Mais on est resté à la base des chasseurs-cueilleurs. Et ça, lui, il est toujours chasseur-cueilleur.
Dites-nous un secret, Catherine. Il reste encore des textes de Camus qui n'ont pas été publiés ?
Non.
On non. A tout lu.
Sauf les lettres, la correspondance avec ma mère, qui est tout aussi volumineuse.
Et alors ?
Ah là, c'est plus compliqué hein, pour moi. On l'a préparé avec Béatrice et Alexandre, mais... C'est plus compliqué. Et puis, il faudrait que j'en parle vraiment avec mon frère, qui n'est pas toujours accessible.
Là, on a toutes les lettres de Maria Cazares et d'Albert Camus. On les retrouve donc dans ce gros volume publié chez Gallimard. On peut trouver également un petit volume en folio avec ce discours de Suède qui est absolument merveilleux. Je ne sais pas quel est votre Camus en dehors de la Pléiade à laquelle vous avez participé, Gilles Philippe. Je ne sais pas quel est le texte que vous préférez chez Camus, celui que vous conseilleriez à nos auditeurs s'ils ne le connaissent pas encore.
Si on ne connaît pas du tout Camus, on n'a pas le choix, on est obligé de lire L'étranger. D'abord parce que c'est un texte extraordinaire, et puis tout simplement parce que dans la mémoire collective, Camus c'est L'étranger. Qu'on le veuille ou pas, qu'on le trouve ça juste ou pas, injuste ou pas, on ne peut pas, il n'y a pas d'autre porte d'entrée. Il y a des portes plus intéressantes peut-être, mais il n'y a pas de porte plus pertinente pour entrer et comprendre la place que Camus joue dans nos imaginaires d'aujourd'hui.
Et vous, Geneviève Brisac ?
Oui, moi,
votre Camus préféré, c'est L'étranger. Non, il y a d'autres textes. Il y a une grande richesse. On le découvre d'ailleurs dans la Pléiade. Il y a par exemple ces textes de journalistes, puisque Camus a été également journaliste. Lorsqu'il va en Kabylie, Misère de la Kabylie, pour moi, ce sont des textes merveilleux qui méritent d'être lus aujourd'hui, qui hélas d'ailleurs ne sont pas complètement étrangers aujourd'hui encore à la situation de l'Algérie. Vous voulez rajouter un mot ?
Qu'on trouve dans Chroniques algériennes, folio.
Oui. Non, je voulais juste, je veux saluer en passant les noces à Tipaza, que c'est vrai, j'adore. C'est un texte qui m'a toujours accompagnée, que je trouve magnifique. Il y a cette beauté poétique.
Et qui compléterait exactement, parce qu'il y a ces deux faces de Camus. Et on dit toujours, il y a deux Camus, un Camus classique, un Camus lyrique, et on aurait le classicisme de l'étranger si c'est un texte classique, et puis le lyrisme des noces à Tipaza.
Il est sorti en même temps, juste avant, en folio, discours et conférences. Qu'on ne trouve que dans la Pléiade et qu'on a fait passer en folio. Et qui est, alors là, d'une actualité incroyable.
Une manière de le rendre plus accessible. Et pour ceux qui n'ont pas l'argent et les plus jeunes, peut-être qu'il y a le Pass Culture Transition vers le billet culturel de Mathilde Serrel. Sébastien Le Foll, notre camarade du Point, vient également de rentrer dans ce studio. Mathilde, dans le cadre de cette opération spéciale de France Culture sur les nouveaux chantiers de la politique culturelle, vous vous êtes intéressée au fameux Pass Culture.